Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce premier jour de printemps. Nous sommes le lundi 20 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
Et nous sommes aujourd'hui avec Bernard Kepen, économiste en chef à CBC Bank. Bonjour Bernard.
Bonjour Guillaume.
Et nous allons revenir avec vous dans quelques instants sur le rachat de Crédit Suisse par son concurrent UBS, les tenants et les aboutissants et la crise bancaire que nous avons traversée la semaine dernière. Va-t-elle se poursuivre? Est-ce signe d'une faiblesse de nos banques? C'est toutes ces questions que nous allons nous poser. Et puis, nous évoquerons également le conclave budgétaire qui a débuté hier. Je suis Guillaume Cordeau. Et vous écoutez le Brief.
Le Brief, cette info, dès 7h.
Ça y est, c'est fait. À l'issue d'intenses négociations, UBS, le premier groupe bancaire helvétique, a donc décidé de racheter son concurrent Crédit Suisse pour 3 milliards de francs suisses, soit 3 milliards d'euros payables en actions. On a entendu différents chiffres pour cette opération qui ont gonflé au fil des heures. Crédit Suisse était en forte difficulté financière et, faisant partie du groupe fermé des 30 banques trop grosses pour faire faillite, menaçait le système financier mondial. Alors ma première question est toute simple, Bernard Kepen, on pousse un ouf de soulagement ce matin à l'ouverture des marchés financiers, même si tout n'est pas terminé.
Alors tout n'est certainement pas terminé parce qu'il y a encore pas mal d'inconnus dans l'accord qui a été négocié cette nuit. Et d'autre part, très clairement, il y a aussi toute l'interrogation sur les banques régionales aux États-Unis. Il faut bien se rendre compte qu'on est avec deux facteurs, deux éléments d'inquiétude. Et je voudrais quand même rappeler, et je peux comprendre aujourd'hui l'inquiétude des investisseurs et des épargnants qui ont un peu l'impression de revivre la crise de 2008, la crise financière, et ça donne vraiment de très mauvais souvenirs.
En tout cas, la BCE, la Réserve fédérale américaine et le Trésor américain se sont félicités hier soir de cette transaction. UBS va bénéficier d'une garantie de 9 milliards de francs suisses du gouvernement helvétique. La Banque centrale du pays accorde par ailleurs une ligne de liquidité allant jusqu'à 100 milliards à UBS et à Crédit Suisse. Est-ce une bonne chose que l'on dégaine ainsi les liasses de billets pour sauver le secteur ou faut-il se remettre profondément en question, Bernard ?
Alors, il faut être clair qu'il y a une grande question derrière tout ça parce qu'aujourd'hui, la fusion d'UBS et Crédit Suisse va nous créer un mastodon et on est dans une logique qui est un peu illogique finalement quand on réfléchit, c'est-à-dire qu'on va créer une banque qui sera extrêmement systémique. Donc ça pose évidemment énormément de questions. Maintenant, d'un autre côté, clairement, les autorités monétaires ont appris de la crise de 2008 et donc elles ont mis en place aujourd'hui un certain nombre de pare-feux qui étaient absolument indispensables. Ce n'est pas pour autant qu'on va encore ne plus avoir de soubresauts dans les marchés financiers. Il y a encore pas mal de questions et très clairement, il va y avoir des grands perdants qui vont être d'une part les investisseurs, et ça c'est un peu logique dans l'investissement quand on investit dans des actions, mais également les détenteurs d'obligations du Crédit Suisse. Et puis il va y avoir en termes d'emploi pas mal de conséquences. Maintenant, les autorités n'avaient pas d'autre choix que d'intervenir pour éviter un effet de contagion.
Alors, comment faire pour revenir à de plus petites structures, celles qui jouent le rôle de financeurs de projets plus locaux ?
Mais je pense que globalement, ce qui est interpellant aujourd'hui, c'est d'une part l'absence de contrôle sur les banques régionales aux États-Unis, et c'est là aussi où ça pose évidemment la question de la dérégulation qui a eu lieu à l'époque de Trump. Et d'un autre côté, c'est clair que par contre, les banques européennes sont beaucoup plus saines et beaucoup mieux structurées aujourd'hui. On est sur un modèle qui est beaucoup plus conforme au rôle que doit jouer un organisme bancaire qui est un intermédiaire dans le marché financier et dans l'économie.
Est-ce que c'est vrai aussi qu'il y a des défaillances dans les procédures de contrôles internes des banques? On en a parlé ces derniers jours.
Alors, très clairement, en Europe, certainement pas. On l'a bien vu. Alors, je ne vais pas parler du Crédit Suisse parce que le Crédit Suisse, ça fait des années qu'ils sont dans tous les mauvais coups, dans tous les mauvais dossiers. Et donc, la problématique du Crédit Suisse était connue depuis des années. Évidemment, avec la crise dans les banques régionales aux États-Unis, cette problématique est devenue encore plus évidente et a poussé à cet accord de cette nuit. Mais très clairement, au niveau de l'Europe, par contre, les organes de contrôle, les mesures qui ont été prises et les mesures qui ont été décidées après la crise financière sont extrêmement contraignantes pour les banques et absolument utiles. Et elles jouent absolument en plein leur rôle aujourd'hui.
Bernard Kepen, je me dois de vous poser la question à présent. Les banques sont-elles plus solide qu'avant la crise financière de 2008, comme l'a affirmé Christine Lagarde jeudi, la présidente de la Banque Centrale Européenne, pour justifier la politique de taux fort de l'institution. Il y a plus de liquidités qu'avant, les capitaux sont plus élevés. Enfin, les taux forts, Bernard, c'est bon pour les marges tout de même.
Alors c'est clair qu'on va pas se voiler la face. Une remontée des taux d'intérêt, c'est bon pour le secteur financier. Maintenant, clairement, ce n'est pas bon pour le secteur financier. On l'a vu aux États-Unis à partir du moment où ils ont investi dans des obligations dont la valeur des obligations a baissé à cause de la remontée des taux. Mais donc, en dehors de ce phénomène spécifique sur le marché américain et les banques régionales américaines, le secteur européen est beaucoup plus sain, les ratios sont bien meilleurs et surtout les contrôles sont totalement différent de ce qu'on a connu en 2008. Donc les banques européennes font un peu exception à la règle parce que les organes de contrôle sont plus contraignants.
Aujourd'hui, nous sommes dans l'œil du cyclone. Le dossier Crédit Suisse est en train de se régler. La réserve fédérale américaine doit se réunir demain et après-demain pour décider de sa politique monétaire. L'inflation reste trop élevée aux États-Unis. À quoi vous attendez-vous ?
Alors, il faut bien se rendre compte que, étant donné les soubresauts sur les marchés financiers, le fait que l'on va avoir encore certainement des acteurs régionaux aux États-Unis qui vont faillir parce que ça va arriver, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. On va avoir un ralentissement de l'économie qui sera plus important que prévu dans le scénario de la Banque centrale américaine. Ce qui va l'aider quelque part, en étant un peu cynique dans mon propos, ce ralentissement va ralentir également l'inflation. Donc on aura probablement encore une hausse des taux de la part de la Banque centrale américaine de 0,25% lors de cette réunion cette semaine. Et puis peut-être un scénario qui va être la fin de la hausse des taux parce que le ralentissement sera plus important que prévu.
Et vous pensez que ça peut encore créer un mini remous dans le secteur bancaire américain ?
Alors soyons clairs, le secteur bancaire américain, on n'est pas encore sorti des tensions qu'on a connues la semaine passée. On va encore connaître une semaine extrêmement mouvementée. Il y a pas mal de banques régionales qui ont encore des problèmes de liquidité aujourd'hui. Et donc, on va avoir pas mal de volatilité encore sur les marchés et nécessité de soutenir ces banques régionales de la part de la Fed. Il faut savoir que l'injection de liquidité de la part de la Fed la semaine passée était plus importante que ce qu'on a connu en 2008.
Et au final, dans quel état d'esprit peut-on dire que sont les investisseurs, que ce soit à propos du secteur bancaire, mais à propos des autres secteurs présents sur les marchés financiers ?
Alors, il faut être bien clair, on est dans des soubresauts, et quand on est dans un soubresaut, il y a un adage qui dit « il ne faut jamais prendre un couteau quand il tombe », parce qu'on risque de se faire très très mal. Donc la position qu'il faut toujours avoir, c'est une position de prudence et aujourd'hui attendre que les mesures qui ont été prises par les autorités fassent leur effet. Et donc là, il faudra attendre pendant probablement quelques jours pour y voir un peu plus clair.
Il n'y a pas que certaines banques qui éprouvent des fragilités, les pouvoirs publics aussi. En Belgique, ce dimanche après-midi, le gouvernement fédéral a débuté son conclave budgétaire de printemps. Des arbitrages de bonne gestion doivent être faits. Les mises en garde sur un dérapage des finances publiques belges se multiplient et l'exercice a débuté de façon tendue, le maire mettant la pression sur le thème de l'emploi. Il refuse de valider toute réforme fiscale s'il n'y a pas de réforme de l'emploi. Vendredi, une cinquantaine d'économistes et d'experts politiques ont signé une carte blanche publiée dans l'Écho pour demander au ministre plus de sobriété. Ils estiment que la dette publique belge est trop élevée et ça risque d'empirer avec la hausse des taux des emprunts qu'il faudra rembourser. Bernard Kepen, vous n'êtes pas sur la liste des signataires. Pour quelles raisons ? Vous a-t-on oublié ou ne partagez-vous pas tout à fait le même avis que vos confrères ?
Alors, je ne sais pas, il faudrait poser la question aux initiateurs de cette carte blanche si on m'a oublié, mais clairement, je suis en phase totale avec cette carte blanche et totalement d'accord avec ce qui a été écrit. Je pense qu'aujourd'hui, le monde politique a une responsabilité et on devrait presque se poser la question de savoir, alors qu'ils sont conscients du défi qu'ils ont devant eux, s'il ne faudrait pas les mettre face à une responsabilité parce que c'est un engagement sur le long terme pour la Belgique. On doit absolument réduire nos dépenses, c'est une obligation aujourd'hui, c'est une nécessité, le poids de l'État est trop important au niveau de l'économie belge. Donc il faut qu'ils prennent des mesures et il faut qu'ils en soient en plus tenus responsables.
Le risque de dérapage est bien réel, hein, tout le monde le dit, la Commission européenne, le FMI, l'OCDE, la Banque nationale, etc., et même le Conseil central de l'économie. Où faut-il réduire nos dépenses exactement, Bernard ?
Je pense qu'il faut revoir notre budget et donc il faut mettre les priorités. Alors, les priorités aujourd'hui, c'est évidemment le secteur de la santé, c'est l'éducation et c'est l'emploi. Et en dehors de ça, on doit absolument se poser les bonnes questions sur l'usage des fonds publics et le marché de l'emploi, évidemment, est une des clés aussi de la réussite. parce qu'une amélioration du marché de l'emploi aura un impact positif également sur le budget de l'État.
Nous ne pouvions pas laisser passer ce brief sans parler de la nouvelle composition du BEL 20 qui entre en vigueur aujourd'hui. Un petit mot, Bernard, sur les départs et les arrivées ainsi que sur les perspectives. L'indice remanié vous séduit-il ?
Alors, il est clair qu'un indice boursier doit évoluer. Ça, c'est une certitude. Un indice boursier n'est pas figé dans le temps. Alors, il doit évoluer en fonction de l'économie, il doit évoluer en fonction des grandes tendances. Et donc, on a un indice qui, pour moi, le rend un peu plus attractif parce que le problème de l'indice aujourd'hui en Belgique, c'est que c'est un indice qui est peut-être un peu vieillissant. Et donc, le remanier à un moment donné, pour moi, totalement nécessaire. Et c'est le reflet de l'évolution de notre économie aussi.
Ça dit quoi exactement que Colruyt sorte de cet indice ? Et on avait même évoqué Proximus.
Alors, ça dit qu'effectivement, dans les acteurs majeurs aujourd'hui dans une économie, on a plus ce type d'acteurs-là. On a des acteurs qui sont plus sur les nouvelles technologies, sur la biotechnologie, etc. Et donc, très clairement, cet indice doit être le reflet aussi de l'activité. Et donc, ça montre bien que nos modèles du passé sont en train d'évoluer. Et ça, il faut l'accepter, même si parfois c'est un peu dur à entendre, mais c'est une réalité.
Un regard enfin, Bernard Kepen, sur ce qui se passe en France avec la réforme des retraites et le recours à l'article 49.3 qui permet de faire passer le texte en force sans le vote des députés. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait voir chez nous avec la réforme des pensions.
Alors, deux réflexions par rapport à ça. Ce qui se passe en France est extrêmement grave. On le voit bien, vu la violence des réactions. Les sondages sont extrêmement négatifs. Les Français sont révoltés et on risque d'avoir un nouvel épisode des Gilets jaunes, que ce ne serait vraiment pas surprenant, probablement une démission du gouvernement, et donc on est parti sur un sacré chaos au niveau de la France. Maintenant, en Belgique, on peut quand même pas exclure d'avoir une situation extrêmement tendue. On voit bien que les tensions au niveau de la Vivaldi deviennent de plus en plus vives, et on pourrait se retrouver dans une situation de blocage et sans accord, ce qui serait dramatique vu l'état des finances publiques en Belgique.
Donc, il y a des pas à pas. Merci beaucoup. Et dans le reste de l'actualité à l'étranger, sachez que le président chinois Xi Jinping, qui entame un troisième mandat, sera à Moscou d'aujourd'hui à mercredi à l'invitation du président russe Vladimir Poutine. Et côté pratique, mais c'est toujours de la politique, il y aura aussi un sommet européen ce jeudi et ce vendredi à Bruxelles. Merci Bernard Kepen d'avoir été avec nous.
Avec plaisir Guillaume.
C'était un plaisir également pour nous. Et si vous voulez compléter vos connaissances sur les sujets dont on vient de parler, je vous invite à consulter dès maintenant le blog de mon invité Business Café sur le site de CBC Bank. C'est passionnant. Très belle journée à tous. Merci de nous avoir suivis et à demain.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.